Je me souviens de ces hommes, de ces femmes qui marchaient.
Mais un pas devant l'autre, un pas devant l'autre.
Un pas devant l'autre.
Voyageurs de la vie, voyageurs de leur vie, allant d'un point à l'autre. Un pas devant l'autre.
Pour avancer toujours plus loin.
Et au milieu, coulent les flots de l'eau. De là, vie animale, végétale, mine, et râle, désin, trans, piquant, au cœur des ailes, aimant. De leur effet bénéfique sur la nature, de rive en océan, s'étendu, poison, déstructure, le cours d'eau, de l'eau vivante.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un pas devant l'autre. Cette semaine, je vous propose de plonger dans les rivières maltraitées. Commençons par dresser le portrait d'une rivière, d'un cours d'eau naturel, sans intervention humaine. L'eau s'est creusé un lit dans le sol sur des années successives, formant une vallée alluviale longée de part et d'autre de zones humides, parfois d'une pente douce sur une rive et d'une falaise abrupte sur l'autre rive. Un ruban végétal, appelé ripisylve, part et protège les berges du cours d'eau, abritant une biodiversité endémique riche d'animaux et de végétaux, un milieu aquatique et aérien riche in situ de et pour cet écosystème, non cloisonné mais en lien continu et transitoire dans le cycle de l'eau, donc une ressource pour tout être vivant sur Terre. Et un beau jour, l'homme est arrivé et s'est installé sur ses rives. Profitant de son eau, utile à son quotidien et à ses entreprises, il en retire sa force hydraulique, sa fraîcheur, sa constante température, les fruits de la pêche. Il s'en sert pour transporter des montagnes de provisions. En extrait des fagots et de plus gros billots pour se chauffer et cuire, au fil du temps, ses activités humaines évoluant, grossissant, s'industrialisant, il finit par exploiter, avec toutes les connotations négatives du terme, ce milieu. J'utiliserai des périphrases, des raccourcis pour balayer l'étendue des abus. Il utilise l'eau fraîche du cours d'eau pour refroidir ses réacteurs. La température passe alors trop souvent de 12 degrés à 15 degrés, déstructurant l'équilibre du système écologique. Des espèces disparaissent. Il l'utilise pour nettoyer ses systèmes industriels, mais prend-il vraiment la peine de reverser cette eau usée après l'avoir nettoyée, épurée et remise à bonne température? Il dilue ses rejets pour soi-disant en limiter les impacts polluants. Baliverne, la nature ne sait pas toujours détruire les éléments polluants, le plus souvent elle les accumule petit à petit et de jour en jour. Pour illustrer le propos, à votre avis, combien reste-t-il en France de cours d'eau non détruits par la pollution? Avez-vous entendu parler de l'état du long fleuve Rhône? De l'histoire des PCB, rendant impropres à la consommation les produits de la pêche? En France, c'est 90% des cours d'eau qui sont contaminés par des polluants. On compte bien sûr les pesticides, les herbicides, issus de l'agriculture et du jardinage et des entretiens de voirie, mais également moins prélevés, moins contrôlés, tous les micropolluants présents dans notre entourage. Les polluants endocriniens, issus de la pharmacopée, les polluants issus des gaz d'échappement ou bien des gaz issus de feu, feu de cheminée, brûlage à l'air libre. Ce sont plus de 100 substances différentes qui ont été mises en évidence dans le rapport annuel 2010 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Je vous invite à aller consulter ce rapport pour plus de détails. Il en détruit les ripisylves et les zones humides pour gagner de la place, agrandir ses accès à l'eau, construire au plus près. C'est très bucolique et cela satisfait sa soif de possession, de domination de la nature. Waouh ! Je me souviens, autour des années 2000, de m'être posé la question suivante en me promenant près du lac du Bourget. Qu'arriverait-il si beaucoup d'eau arrivait d'un coup dans cette vallée, minéralisée à l'extrême? Eh oui, encore un aménagement fait sur une zone humide. Et quand on regarde aujourd'hui ce même site, on voit qu'il y a eu pas mal de protestations et des demandes de soutien pour aménager les berges et prévenir les risques d'inondation. N'y aurait-il pas un problème? Quand les grandes crues arrivent, on observe les grosses inondations classées catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, dans ces cas-là, ça me fait doucement rire. Juste pour info, une zone humide aux abords d'un cours d'eau sert entre autres à éponger les surplus d'eau arrivant par forte pluie, pour le restituer progressivement en période plus sèche. Les catastrophes de crues dans les lieux où les zones humides sont détruites ne sont pas des catastrophes naturelles, mais des catastrophes, ou devrait-on dire des fautes, humaines. C'est celui qui a détruit le milieu qui devrait être responsable de ce qui arrive ensuite. Autre illustration, les méthodes d'exploitation agricole intensive ont fait repousser toujours plus loin les frontières entre culture et cours d'eau. Seule une bande enherbée de 1 mètre de large est obligatoire entre champs et rivières aujourd'hui. Nous ne douterons pas, bien entendu, de la capacité de ces graminées à retenir tous les surplus d'engrais et de pesticides polluants, sachant que depuis de longues années, la nature a installé d'elle-même les saules sur les abords des cours d'eau. Saule huit mâle, saule pourpre, saule pleureur, ces végétaux mêmes qui ont un pouvoir de rétention des polluants, bien plus que tout autre végétaux. Pour conclure, l'eau et ses habitants subissent les conséquences négatives. Au mieux, le milieu est perturbé, au pire, il est complètement détruit. Des espèces animales disparaissent, des variétés végétales également, l'eau polluée devient impropre à la consommation. Par exemple, nous ne pouvons plus boire l'eau des cours d'eau de nos jours, même en pleine montagne. Parmi les espèces menacées, fortement menacées, on peut noter deux d'entre elles qui sont assez connues. Le saumon atlantique, sauvage, bien sûr, puisqu'on fait disparaître des espèces, mais on en introduit de nouvelles, parfois génétiquement modifiées, ce qui n'est pas sans conséquence sur les espèces sauvages. Le brochet est également très fortement menacé. Ce prédateur qui se nourrit entre autres de cyprinidés, les gardons, les brèmes, qui se nourrissent également de carpes, de goujons, d'anguilles, et permettent ainsi de garantir un bon équilibre et une bonne santé de nos milieux aquatiques, est en voie de disparition. Les brochets que nous trouvons dans nos rivières actuellement sont presque tous issus de lâchers de poissons venant de fermes spécialisées dans l'ésociculture. L'espèce sauvage risque de ne plus du tout exister. Je m'arrêterai là pour cette fois. Nous continuerons ce sujet dans un autre un pas devant l'autre, notamment sur la disparition des espèces animales. Tout cela pour nous rappeler que l'eau si précieuse à nos vies est maltraitée. Peut-être parce que nous sommes déconnectés de l'écosystème global dans lequel nous vivons. Nous sommes déconnectés et ne savons même plus que l'air que nous polluons nous sert à vivre. La terre que nous polluons et tuons nous sert à nous nourrir. Que l'eau que nous maltraitons est extrêmement précieuse, car sans eau, pas de vie. Avec de l'eau polluée, des corps malades. Rappelez-vous que notre corps est composé de 56% d'eau en moyenne. Que les aliments que nous mangeons, tels que les légumes, en contiennent 80 à 90% d'eau. Donc, prenons soin de tout ce qui nous entoure.
C'était pas l'année dernière. C'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac. Avec le canoë, rose, à deux places, qui flotterait, comme ça, pour personne.
Fermez les volets, et ne plus changer l'eau des fleurs.
Devant l'autre.